20h05, je vous rappelle, les Huskies de Rouyn-Noranda, on est devant 2-0 face aux Moussets d'Halifax. Match important qui pourrait propulser une victoire des Moussets, les propulse directement en grande finale. Donc, après une période de jeu, c'est 2-0 pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Elle a terminé sa saison 2018-2019 en très grande force avec 3 médailles d'argent. Ça se passait du côté de Las Vegas. Par la suite, elle a conclu les championnats panaméricains d'haltérophilie qui avaient lieu à Guatemala en remportant 2 médailles de bronze. Elle est avec nous. Christelle Engarlem est avec nous. Salut Christelle.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Premièrement, félicitations pour les médailles. C'est un processus, c'est Tokyo qui s'en vient. C'est ça l'objectif, c'est les Jeux olympiques. Raconte-nous un peu le processus pour te rendre jusque-là.
C'est un peu compliqué, les qualifications olympiques. Enfin, on en a plusieurs à faire jusqu'à quasiment le mois d'avril, quelques mois avant les Olympiques. Plusieurs compétitions, puis l'objectif, c'est de faire à peu près un top 12 mondial dans sa catégorie de poids respective, ce qui veut dire les 76 kilos pour moi. Et puis, quand mon top 12 va être fait, ce que je m'entraîne pour, je vais avoir mon ticket pour Tokyo 2020.
OK. Donc, là, ça, c'était la question officielle. Maintenant, on jase.
Ouais.
Parce que là, on parle d'haltérophilie et pour que les gens comprennent bien, à l'arraché, c'est 211 livres à peu près que tu lèves?
Ouais.
OK. Et l'épaulé jeté, c'est 282 livres?
Ça se peut, si tes calculs sont bons, parce que moi, je suis en kilo.
Je regardais 128 kilogrammes, là, j'ai fait la transition.
Oui, c'est ça.
C'est 282 livres.
Oui.
OK, 282 livres, je prends ça, c'est sûr que je ne le lève pas. C'est juste une question de technique, c'est une question de force naturelle. C'est quoi le truc pour faire ça?
Moi, j'ai commencé vraiment jeune, fait que j'ai eu le temps de développer le mouvement, travailler la technique. Je vous dirais, il y a une bonne partie, 50% technique. L'autre 50%, il se divise avec un peu de force, un peu de puissance, flexibilité, être agile dans le mouvement, vitesse, rapidité de la barre. Fait que c'est un mélange un petit peu de plein d'aspects physiques, mais vraiment vraiment très important, la technique dans le mouvement.
Est-ce qu'il y a des poids qui te font peur? Dire, hey, si je prends ça, je ne serais pas capable de lever ça.
Ça m'est pas arrivé de me dire que je suis pas capable, mais c'est vrai que, par exemple, 100 kilos à l'arraché chez une fille, ça commence à être barre vraiment lourde. 140 kilos à l'épaule chiffre. Fait qu'il y a des chiffres un peu, c'est plus mental que te dire que tu seras pas capable, parce que des fois, tu es à 2-3 kilos. Fait que naturellement, avec un peu d'entraînement, ça va passer. Mais c'est plus mental un peu que des fois, tu appréhendes des charges.
OK, raconte-moi. À un moment donné, évidemment, quand tu grandis, tu te développes. Ouais. En tant que femme, là, tu viens plus forte.
Oui.
Mais j'imagine que tu as un stade où le développement, ça cesse. Mais veux pas, quand tu ajoutes du poids, comment tu fais pour aller chercher cette capacité-là à toujours être capable de lever plus?
Ben, c'est une bonne question. En fait, on le retrouve dans d'autres sports. On appelle ça des plateaux, dans notre cas. Fait que des gens qui courent ou qui font d'autres disciplines, puis qui arrivent, puis que leur performance pendant un an, deux ans, c'est pas trois ans, sont stagnés. Ben, nous aussi, ça nous arrive. Comment tu fais pour passer ce plateau-là? Il y a tellement de facteurs qui peuvent l'expliquer. Des fois, c'est psychologique, comme on vient juste de dire, par rapport à une charge précise. Des fois, c'est un aspect technique, justement, une erreur technique que t'arrêtes pas de répéter, puis que t'as de la difficulté à casser. Effectivement, des fois, ça peut être un manque de force. Fait qu'on Oui, on garde toujours l'aspect technique, mais on y va un peu plus en force générale pour augmenter ta force, parce que c'est sûr que si tu manques de force, ça va être difficile de lever le mouvement, même si tu as une technique efficace. Fait que ça dépend exactement c'est quoi du facteur, mais nous aussi en haltéro, on retrouve des années ou des moments dans notre carrière où on a un peu un plateau, puis que on pense toujours qu'on va être en montée entre 15 ans puis 25. À chaque année, tu vas rajouter 5 kilos de plus. Des fois, ça arrive des années où tu fais la même chose que l'année précédente, même des années où ça va un peu moins bien.
Là, t'as quel âge? T'as 23? Là,
23 ans,
okay. 23, tu vois comment ta vie d'haltérophile?
Bonne et grosse question.
Mais on se pose des questions.
Oui, c'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aspirais aller aux Jeux olympiques. Puis là, je me suis dit, en 2020, j'aurais possiblement fini mon bac. Puis ma carrière après les Olympiques serait finie. Puis là, 2020, c'est comme dans quelques mois. Mm-hmm. Puis on dirait que je vais super bien, mon corps va bien, j'ai encore la passion. Et je me dis, je pense que je vais m'engager pour un autre cycle 2024. Je pense que plus que tu vieillis, plus que tu te rends compte que tirer la plug, si je peux me permettre cette expression-là, est quand même difficile de dire c'est quand tu prends ta retraite, parce que souvent dans le sport amateur, on y va par cycle de 4 ans, souvent pour les Olympiques. Puis 4 ans, ça va vite, mais en même temps, c'est long quand tu embarques pour un autre 4 ans. T'sais.
Donc, ce que je comprends, c'est que le processus est parfois aussi plaisant que la compétition qu'on vise, les Olympiques, entre autres.
C'est ça, parce que souvent, dans le sport amateur, on voit souvent les Olympiques, mais à chaque année, il y a des compétitions qui comptent les Jeux universitaires, les Jeux du Commonwealth, les Jeux Paname. Fait qu'à chaque année, il y a comme un petit jeu qui t'amène éventuellement vers les Jeux olympiques, mais il y a plein d'autres compétitions qui sont super le fun. Puis, c'est juste le mode de vie d'un athlète aussi, c'est quand même un luxe, puis c'est une belle partie de ta vie. Fait que oui, des fois, tout le processus pour te rendre jusqu'aux Olympiques, moi, je pense qu'il est aussi beau.
On s'entretient avec Christelle N. Garlem. Tu parles du mode de vie d'un athlète. Ça ressemble à quoi, ton mode de vie?
Beaucoup d'entraînement. On peut aller jusqu'à une dizaine d'entraînements par semaine. Alors, je me couche pas très tard. Je vais à l'Université de Montréal aussi. J'étudie à temps partiel. J'étudie, je m'entraîne. Puis quand je peux, je vais souper avec mes amis au restaurant. C'est pas mal concentré à m'entraîner, étudier, puis me reposer pour l'entraînement du lendemain.
OK. Jusqu'à 10 entraînements, je compte ça, une semaine, c'est 7 jours. Donc, tu as des journées où tu as double entraînement.
Oui, bien sûr. On a le dimanche off, qui est pas mal toujours comme ça. Puis quelques jours où on a des doubles entraînements, effectivement.
Je regardais sur Internet, je m'informais un peu avant notre entretien, et t'as dit l'haltérophilie, c'est une discipline.
Ouais.
Et ça m'a tellement allumé. Je veux que tu me parles de ça. Ah oui. C'est quoi cette discipline-là?
Ben, tu sais, souvent on parle de certains sports, puis on parle souvent de jouer au hockey, jouer au soccer. Tu peux aller t'amuser, aller lancer, faire des tirs, te pratiquer, t'amuser. Mon haltérophilie, il y a moins l'aspect ludique. Jouer à l'haltérophilie, on a rarement entendu ça, là, tu sais. Déjà, c'est un sport individuel, c'est un sport qui t'es confronté vraiment juste à toi-même. Puis c'est ça, je pense qu'il y a une partie ludique qui est un peu moins présente. Fait que je pense que c'est de là quand je voulais dire que c'est une discipline, tu vas là pour faire quelque chose de précis, quelque chose qui manque un peu. Il y a du fun, là, évidemment, dans l'haltérophilie.
Mais c'est pas méga sexy, là.
C'est pas méga sexy, exactement. Puis c'est pas méga le fun. Puis c'est rare que personne qui va dire « Hey, je vais venir faire de l'haltéro avec toi », tu sais. Fait que c'est vraiment une discipline. Puis je pense qu'il y a un aspect aussi psychologique qui est très grand là-dedans à développer, que les gens, des fois, à la maison, oublient dans des sports comme l'haltérophilie.
OK, donc, si toi, personnellement, tu dis « Moi, je suis prêt à faire des choses parfois qui sont pas super hot, d'aller lever des plates, parce qu'en fait, c'est ça, avec ma bonne technique. » Qu'est-ce qui te pousse à faire ça?
Mon rêve des Olympiques. Quand même, la camaraderie que j'ai avec les autres personnes. Parce qu'on est tous dans un sport individuel, mais il y a quelqu'un à côté de moi, mon entraîneur qui me pousse, le challenge. C'est quand même un sport avec des charges. Enfin, on voit si on a une augmentation. C'est facile à quantifier, tu sais. Il n'y a pas d'arbitraire dedans. Vraiment, 100 kilos, 105. Ouf, je suis descendu à 98. Fait que c'est quantifiable. Ça, j'aime ça, ce côté-là. Puis, je pense que c'est le dépassement de soi. T'sais, moi, j'ai eu la piqûre pour l'haltéro, mais je pense que pour les sports, c'est tout le monde la même chose.
Et raconte-moi comment tu as commencé ça, la
après avoir vu le film Mademoiselle C.
Ben, je le savais. Ben, oui. Tu me racontes l'histoire. C'est vraiment le fun,
honnêtement. J'étais en 5e ou 6e année. J'allais au cinéma Beaubien. Puis j'ai vu le film Mademoiselle C, puis il y avait une petite fille qui faisait de l'haltérophilie. Ouais. Puis moi, ma mère avait sclérose en plaques. Dans le film, la petite fille, sa mère aussi, avait une maladie quelconque. Fait que j'ai comme fait des liens, je pense, sans le savoir à mon jeune âge. Puis je suis revenue chez moi. J'ai dit à ma maman, je faisais du patinage artistique à l'époque, mais j'étais vraiment pas bonne, là, je l'avais pas pantoute. Et je suis revenue, j'ai dit à ma mère... j'aimerais ça faire de l'haltérophilie. Elle a dit OK. À l'époque, elle avait vu en 2004 Maryse Turcotte. Fait qu'elle avait une idée un peu c'était quoi, là. Mais là, j'arrive un mardi soir, là, mettons. Puis elle m'a inscrite sur Claude Rebiard. J'étais vraiment jeune. Et elle m'a dit, tu sais, Christelle, ils vont peut-être pas te prendre, là, 9-10 ans, lever des poids. Fait que j'ai commencé vraiment tranquillement, des petits lancers de ballon, juste le manche à balai, juste apprendre à faire le mouvement, puis apprendre à m'entraîner, avoir une rigueur.
Au début, est-ce que par moment, tu t'es dit, ben, écoute, c'était le fun dans le film, mais je suis pas convaincu que c'est ça que j'ai le goût de faire? Ou ça a toujours été 100% dans ta tête?
C'est une bonne question. Ça m'est arrivé peut-être vers 11-12 ans, tu sais, où il y a eu comme un petit moment où ça me tentait pas, je me suis retirée du sport. Mais ma mère, elle avait eu une bonne piqûre, je t'avouerais. Elle aimait vraiment ça, fait qu'elle m'a un peu poussée doucement à réembarquer. Puis à partir de l'âge de 12 ans, je suis rembarquée, puis j'ai jamais eu d'autres doutes.
Je lisais également, toi et ta mère, vous faites tout un duo. Vous faites une équipe solide, là. Ouais. Ça, je pouvais vraiment le lire Et j'ai l'impression que c'était une base solide pour te permettre de devenir l'athlète que tu es aujourd'hui.
Ouais, ben c'est ça. Ma mère, elle m'a comme tout donné, là. En fait, elle m'a poussé, mais pas de façon. Tu sais, des fois, on entend des parents que c'est malsain. Moi, ma mère, elle est même pas dans le sport, là. Fait que j'aurais fait ça ou quelque chose d'autre. Ça ne dérangeait pas plus, mais elle voulait vraiment juste que j'aille chercher le potentiel que je pouvais. Puis ma mère, c'est pas. Elle voulait discuter encore à distinguer deux mouvements. T'sais, c'était vraiment moi, parce que moi, j'aimais ça, qui était comme vas-y, fais-le. Mais toujours en me disant l'école, c'est aussi important, là, parce que le sport, ça a comme ses limites. Elle est venue avec mon premier championnat du monde, toutes les grosses compétitions, elle essaie de me suivre. En fin de semaine, c'était les championnats canadiens à la prairie. Est venue, fait qu'elle essaie de m'encourager, puis elle est tout le temps là. Ouais.
Christelle, si tu veux bien, on va faire une courte pause, puis au retour, je veux qu'on se parle de. Écoute, c'est rare, c'est la première fois que j'ai la chance de parler à un haltérophile, et c'est rare qu'on en parle publiquement. Il y a une image qui est quand même, qui reste au-dessus de l'haltérophilie, c'est le dopage.
Ouais.
Et je sais que toi, tu veux être policière.
Ouais.
Je veux savoir, tu sais, veux pas, tu rêves de justice quand tu veux être policière, et tu es pris avec. Il y a des compétitrices avec toi qui, malheureusement, font usage de produits dopants. Je veux qu'on développe un peu là-dessus au retour de ces quelques messages. On s'arrête quelques instants, vous rappelant que les Huskies de Rouyn-Noranda mènent 2-1 sur les Moussettes d'Halifax. On est en deuxième période, 15 minutes 46 à faire en deuxième période. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. 20h20 précisément, et on est en deuxième période, 12:57 à faire. Les Huskies de Rouyn-Noranda, on les devant 2-1 sur les Moussettes d'Halifax. Victoire des Moussettes ce soir, les propulse directement en grande finale. Eh bien, on verra qui gagnera ce duel. On est en compagnie de Christelle N. Garlem qui est avec nous. Elle est haltérophile. L'objectif, c'est les Jeux de Tokyo l'an prochain. Prochaine compétition qui s'en vient pour toi, c'est quoi?
En fait, je viens de finir ma saison avec les championnats canadiens que j'ai gagnés ce dimanche. Alors là, je suis en semaine de vacances jusqu'à...
Donc, présentement, tu aurais ta place pour les Jeux olympiques de Tokyo? Là.
Ça, c'est pas en lien avec les championnats canadiens.
Okay.
C'est en lien avec plus les compétitions que j'ai gagnées à l'international. Là, je suis bien située, mais mon billet n'est pas encore acheté.
OK, parfait. Donc ça, quand tu auras la chance de confirmer tout ça, dès la prochaine saison, durant la saison...
Oui, exactement, qui va commencer en septembre avec les championnats du monde.
Et qu'est-ce que ça te prend pour te qualifier, pour être sûr d'être là?
À peu près un top 12 mondial dans ma catégorie de poids, qui est les 76 kilos.
Et ça, j'imagine que c'est un objectif que tu crois fermement.
Oui, évidemment, évidemment.
Sinon, tu ne serais pas ici.
Exactement.
OK, avant la pause, on s'est parlé de dopage parce qu'on se disait l'haltérophilie. Malheureusement, il y a un nuage qui a traîné pendant quelques années au-dessus de l'haltérophilie. Puis on se disait tout le temps, bon, mais écoute, si tu es capable de lever des poids qui sont gigantesques, il y a sûrement un problème, il y a sûrement quelque chose qui se passe. Je t'ai dit, tu veux être policière dans la vie,
ouais.
Donc tu veux la justice. Comment on compose avec cette situation pour toi personnellement? Puis quand tu vois tes compétitrices en compétition qui sont là, comment tu réagis à tout ça?
Je pense que quand j'étais plus jeune, ça me choquait encore plus qu'aujourd'hui dans l'optique où je me disais comment ça va être possible de faire un podium international quand on voit qu'il y a beaucoup de filles qui tombent. Maintenant, je vois que effectivement il y a une lutte qui se fait contre le dopage de plus en plus avec les années, avec le comité antidopage canadien, celui à l'international aussi. Puis je vois même des têtes qu'on se disait ces gens-là tomberont jamais, tomber en haltérophilie. Fait que là, je vois qu'il y a comme un ménage qui commence à se faire. Puis moi, j'ai réussi à monter sur le podium en sachant que j'ai tout fait ma carrière de façon clean. Fait que ça, je m'accroche à ça, tu sais, à me dire que c'est possible de faire un top 5, top 3 en étant clean. C'est sûr qu'on va en perdre quelques personnes, évidemment, qui vont toujours continuer à croire que c'est en prenant des substances dopantes qu'ils vont y arriver. Mm-hmm. Pourtant, c'est une fausse façon de croire. Mais je continue à croire que c'est possible de faire des grosses charges sans prendre rien.
Et pourquoi tu croyais qu'il y avait certaines personnes qui pourraient pas tomber?
Ben, des gens qui sont un peu des vedettes, qui représentent l'haltérophilie, qu'on dirait qu'ils sont soit protégés des fois par des fédérations, que tu dis, ben, il y a de l'argent qui est mis en cause, ou on a vu dernièrement, il y a une vidéo sur Netflix, Icarus, qui est sortie,
oui,
qui explique exactement comment que tout ça... Fait que les Russes, on voyait que pendant des années, ils ont été protégés.
Et toi, tu l'avais vu, t'es dans les compétitions?
Ben, on voit des charges, là. On voit que, tu sais, la moyenne des gens se tient autour de ces charges-là élevées, à quelques kilos proches, puis t'en as comme 2-3 qui sont ailleurs, tu sais. On ne peut pas prétendre que les gens qui sont ailleurs, ils prennent nécessairement quelque chose, mais là, on voit qu'il y a des nations qui reviennent. T'sais. La Chine, la Russie, les anciens pays de l'Est. Fait que là, on se dit, ben écoutez, même les Russes nous ont montré qu'effectivement, il y avait comme un système systémique dans certains pays qui favorisait ça, puis que si tu étais né dans ces pays-là, tu n'avais comme pas le choix un peu, là, tu sais.
Est-ce que ça se jase entre vous autres? Oui, entre le Canada, mais je parle entre les autres pays qui sont clean. C'est pas quelque chose qui discute?
Entre les pays qu'on pense qui sont clean, oui, on en parle, mais c'est pas tout le monde qui est ouvert à en parler comme
ça. C'est tabou, ça, encore?
Oui, c'est encore assez tabou. Oui, effectivement.
Et as-tu l'impression que l'haltérophilie est plus ciblée pour vous faire tester?
Oui. Il y a certains sports, effectivement, qui sont plus ciblés. Cyclisme, haltérophilie, soccer, boxe, des sports, athlétisme, évidemment. Avec des sports où on a quand même là, un petit peu un historique avec plus de dopage, surtout dans les années 80, effectivement.
Et là, tu faisais référence au film Icarus et on a vu, on voyait des cyclistes arriver puis à un moment donné, venu de nulle part, il y a un test qui arrivait.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment de même que ça se passe dans la vraie vie?
Oui, exactement. Exactement.
Quand il y a ta porte, tu ne sais pas ce qui arrive.
J'ai une application qui s'appelle Adam sur mon cellulaire. Je dois donner une plage horaire, une heure à tous les jours, 365 jours par année. Je choisis l'heure. Cette heure-là, c'est une obligation d'être présente à l'endroit où j'ai dit que je serais. Fait que moi, je donne 6 à 7 le matin. Là. Je vous annonce que je ne suis pas encore partie de chez nous. Eux autres, ils ont le droit, ça fait partie comme de mon contrat, de venir entre 6h et 7h n'importe quel matin de l'année. Fait que c'est à moi, si je suis à quelque part d'autre, de mettre à jour cette application-là. Pour qu'ils puissent venir me tester.
Si, admettons, t'es pas là une fois, c'est une faute à ton dossier?
T'as le droit à 2 ou 3 manquements, quelque chose comme ça, puis après, c'est comme si t'as un test positif. Ça fait partie de ta responsabilité de l'actualiser ou de mettre une heure.
Oh, wow.
Ouais. Puis il y aurait le droit de venir à l'entraînement ou autre. En plus, il y a les compétitions qui viennent. Mais moi, ça m'arrive au moins une fois minimum par mois de me faire tester chez moi le matin.
Ben merci beaucoup d'avoir précisé tout ça. Puis je pense que ça enlève justement ce nuage d'incompréhension qui entoure peut-être l'haltérophilie. Je veux qu'on prenne, écoute, il nous reste à peine une minute, quelque chose comme ça. Tokyo, les Jeux olympiques. Comment t'es imagines tes Jeux olympiques?
Je les imagine beaux, le fun. Puis pour moi, c'est comme la cerise sur le sundae. Je veux pas dire de ma carrière. Après, ça sera à moi de voir où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Mais c'est comme un accomplissement. T'sais. Pour moi, ça serait comme une belle récompense. Peu importe comment ça se déroule, pour moi, d'être là devant mon monde qui vont pouvoir venir me voir, là, c'est un excellent moment pour moi.
Est-ce qu'une haltérophile rêve de gagner une médaille olympique? Ça arrive-tu des fois que tu rêves à ça? Tu te dis, tu dors, là, puis tu te vois en train de gagner une médaille olympique? C'est-tu quelque chose qui est arrivé?
Moi, mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques.
Juste d'être aux Olympiques.
Pour moi, c'est comme un accomplissement d'une vie. Moi, mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques.
Christelle Ngarlem, c'est un grand plaisir. Je te souhaite la meilleure des chances possibles pour la suite des choses.
C'est un plaisir.
Et on souhaite
pour
un podium tant qu'à être là aux Olympiques.
Tant qu'à être là.
Tant qu'à faire.
On va lever plus l'eau pour en avoir un.
Exactement, Christelle. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Merci à Maxime Pépaquet, la mise en onde. Restez le retour. C'est Derek au coin qui s'amène pour Bonsoir les sportifs. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne soirée à notre antenne.